Chapitre 6. Ils prirent leur course vers Saint-Jacut-de-la-Mer, à cheval cette fois. Elle portait une longue robe couleur loutre et un chapeau mousquetaire où flottait une plume. Le ciel resplendissait et les gens d'Ajon faisaient la campagne toute d'or. La tiédeur embaumée qui courait leur causait un enivrement. Partout des fleurs, rien que des fleurs, l'herbe disparaît sous l'envahissement des pâquerettes, le moindre buisson se cache sous un manteau de pétales. Au bord de la route, des chemins s'ouvrent et fuient sous des voûtes d'églantiers, d'aubépines rouges ou blanches. Dans l'herbe humide, des taches d'azur se découpent, il hirondelle, y boit en passant. Perspective où l'œil se perd avec délices, lointain plein de promesses, véritable sentier de paradis, comme eux impraticable. À Plou-l'Abbé, lorsqu'ils y arrivèrent, midi sonnait au clocher haut de l'église neuve. « Pourrons-nous déjeuner dans ce bourg ?» demanda Gilbert, croyant faire une question toute naturelle. Isoline retint sa monture et le regarda d'un air effrayé. « Voulez-vous vous arrêter, parler à ces gens, entrer chez eux ?»« Quoi de plus simple, il y a bien une auberge. Vous n'avez donc pas faim ?»« J'ai très faim, dit-elle, mais ce n'est pas la première fois que j'ai sauté un repas pour courir à travers champs. Mon plaisir n'est jamais complet, toujours quelque chose me rappelle que je suis une victime impuissante. Oubliez-le aujourd'hui, donnez-moi ce bonheur, dit Gilbert qui, prenant la bride du cheval, entraîna la jeune fille avec une douce violence. Elle fronçait le sourcil, se raidissait, devenait très pâle. Mais la surprise que lui causait cette volonté, qui ne cédait pas au premier mot devant la sienne, n'était pas sans charme. L'auberge, en même temps cabaret et ferme, était noire et peu engageante. Dans la première salle, aussi sombre qu'une cave, des hommes attablés, les bras sur la table, comme anéantis, semblaient perdus dans la contemplation de leurs bolets de cidre. L'aubergiste gracieuse, avec un sourire rose et blanc, indiqua vite une porte qui donnait sur la cour. De grandes masures vermoulues, qui semblaient très hautes, l'entouraient en carré. Elle était très encombrée de fumier où des volailles piétinaient et les étables mal tenues l'emplissaient d'une odeur âcre. Au fond, un escalier extérieur qui grinçait sous les pas accédait à une salle donnant sur la campagne. La fenêtre du côté des champs était enguirlandée par un rosier précoce tout en fleurs. C'était d'ailleurs le seul luxe de cette vaste chambre, blanchie à la chaux, complètement vide, hors dans un coin, une table longue et deux bancs de bois, et sur la muraille, comme perdue, une image coloriée de Jésus avec un cœur fumant au milieu de l'estomac. Gilbert fit mettre la table près de la fenêtre. Une nappe blanche se déploya, deux chaises de paille remplacèrent les bancs. Le cidre frais dans des pots de faïence, le beurre salé, le gros pain rustique, les lourdes assiettes vinrent se ranger avec des petits chocs pressés. Isoline, appuyée au chambranle de la fenêtre, regardait obstinément dehors. Elle paraissait souffrir dans ce milieu étranger. Sa sensibilité exagérée lui rendait douloureux le voisinage d'inconnus qui lui semblait d'une race très inférieure et pour lesquels elle éprouvait une répugnance profonde. « Êtes-vous fâchée ?» lui dit Gilbert en s'approchant d'elle. « Méprisez-vous donc l'ami que vous avez choisi au point de ne pas vouloir partager son repas ?» La bouderie n'était pas très sérieuse. Cette chambre solitaire, où n'arrivait aucun bruit, n'avait rien que de rassurant. La jeune fille se retourna vers le couvert mis et une pensée qui lui vint la fit sourire. Maître Mathurin Ferron, un de mes geôliers, sert en ce moment le déjeuner à mon fantôme, dit-elle. Il s'imagine que je jeûne. Eh bien, pour une fois du moins, il se trompera. Et elle s'assit résolument à table. Ils obtinrent une omelette exquise, mais à partir de là, le menu fut assez vague. Ils s'en aperçurent à peine. Isoline était grisée par ce plaisir, tout nouveau pour elle, d'un repas partagé. Les mille soins dont Gilbert l'entourait, ce regard, que l'habitude du commandement faisait si dominateur, se fondant en tendresse lorsqu'il se posait sur elle, lui causait une impression bienfaisante. Ils se parlaient avec une confiance croissante, se racontant leur existence, comparant leur dure solitude et trouvant qu'en bien des points ils se ressemblaient. C'était cela qui expliquait la sympathie et pourquoi, si spontanément, elle l'avait salué, son frère. Frère, ce nom déplaisait au jeune homme, jamais il ne verrait une sœur en elle. Elle était le rêve, le bonheur parfait ou le mortel désespoir, mais non l'amitié tranquille et fraternelle. Il n'osait parler d'amour cependant. Ses yeux purs, cette virginale gravité, lui figeaient sur les lèvres les mots de passion égoïste. Il craignait d'éclairer cette innocence téméraire qui se confiait si naïvement à un inconnu et ne soupçonnait aucun mal là où tout autre se fût jugé perdu. Il avait à lutter cependant contre une jeunesse ardente. La main d'Isoline dans la sienne lui causait des éblouissements. De cette paume tendre se dégageait pour lui un magnétisme si puissant qu'il lui fallait toute sa force de volonté pour en arracher sa main. Ils repartirent, se hâtant vers le but, car ils s'étaient attardés dans leur causerie. Le soleil versait à pic sa lumière chaude sur la campagne de plus en plus belle. Toutes ces haies épineuses, dont s'entoure jalousement le moindre champ de Bretagne, étaient pour le printemps d'admirables prétextes à broder ses floraisons. C'était une abondance, une prodigalité sans pareille. La splendeur rose des pommiers arrachait des cris de surprise aux couples émerveillés, tandis que les oiseaux s'égosillaient à proclamer leur contentement. La baie marécageuse de Saint-Jacques, où prospèrent de hautes herbes dorées, sous lesquelles coassent des grenouilles, était à sec lorsqu'elle se découvrit aux yeux des cavaliers. Des troupeaux y paissaient. Entre les grands rochers bruns qui ferment à demi l'horizon, la mer apparut couleur d'outre-mer et envoya une bouffée de vent frais. Ils prirent un chemin creux, puis se lancèrent à travers champs pour gagner la grève, sans passer par le village. « J'ai l'illusion de la liberté aujourd'hui, » disait Isoline, « et je vous dois ce bonheur de savoir qu'une joie partagée se double. » Saint-Jacques est une presqu'île bizarrement déchiquetée qui offre des échancrures plus ou moins vastes à la mer qui vient les emplir à marée haute. La plus profonde s'enfonce entre deux chaînes de collines, plantureuses et fraîches du côté sud, brûlées sur les pentes qui font face au nord-ouest. La mer entre là comme un beau fleuve. Ils laissèrent leurs chevaux sur la falaise et descendirent le long des roches, sur la grève encore libre. Le vent qu'on ne sentait pas dans la campagne soufflait vivement du large. « Vous n'avez pas froid ?» dit-il. « Oh non !» Et elle s'élança sur un rocher qui surgissait comme une grosse tortue au milieu du sable. Il la rejoignit et là, enveloppés par la brise sifflante, ils regardèrent. Un ciel très doux d'un azur voilé. La mer, au contraire, du bleu profond des saphirs. Elle est très houleuse mais joyeusement. Des rondes de vagues blanches dansent autour des îlots, chaque rocher est coiffé d'une mousse éclatante qui saute, court, rampe, s'éparpille en aigrettes, en gerbes, croule en cascades de perles, s'envole en fumée. C'est gai, cabriolant, gracieux et rythmé comme par une musique de ballet. « L'aimez-vous, la mer, vous, marin ?» demanda Isoline. « Elle nous torture et nous ne pouvons nous passer d'elle, » répondit-il. « Aujourd'hui, cependant, je la renierai pour vous, mais elle sera certainement mon tombeau si vous m'abandonnez. » Ils se regardèrent un moment, lui cherchant à lire au fond de ses yeux, elle avec une sorte d'effroi. Elle se souvenait brusquement que le printemps aurait une fin. Il y eut une sorte de solennité dans cette minute, une inquiétude et comme un pressentiment. Lorsqu'ils voulurent s'en retourner, l'eau avait entouré la roche. C'était maintenant une île. Que faire? Se déchausser, marcher dans l'eau? Une pudeur retenait Isoline. Gilbert, qui savait n'avoir rien à redouter des actes hardis, la saisit brusquement dans ses bras et sauta, avec une sûreté parfaite, sur le sable dont la lame les séparait. La jeune fille eut peur, son chapeau s'envola et elle se cramponna instinctivement au cou de Gilbert. Alors, un vertige le prit, il la serra follement contre lui, couvrit de baisers ses cheveux qui l'aveuglaient et l'enivraient de leur parfum. Mais, aussitôt, il la repoussa, effrayé de cette violence. Rougissant, bouleversé, il détourna les yeux. « Pardon !» murmura-t-il, avec un tel battement de cœur que la voix lui manqua. « Pardon de quoi ? dit-elle en laissant rayonner la lumière tranquille de ses prunelles. « Vous ne comprenez pas ?»«
Non. »
« C'est que je vous aime de tout mon être et que vous ne m'aimez pas, voilà tout. » Elle eut une moue énigmatique et reprit vivement.
« Vous sembliez souffrir, j'ai cru que vous vous étiez blessé en sautant du rocher. »
« La blessure est autre, dit-il avec un amer sourire. Mais je vous en prie, partons. Ce printemps trop délicieux m'a fait perdre la tête, j'ai peur de moi-même. Venez, allons-nous-en. » Ils retrouvèrent leur monture et s'éloignèrent lentement, repassant sous l'ombre du chemin creux. La baie marécageuse était maintenant un beau lac où le vent n'arrivait pas. L'eau s'étalait, douce, unie, avec la courbure d'une feuille de camélia et teintée des nuances plus délicates de la turquoise mourante. Près d'une chaumière, d'un brun velouté, un grand pommier, qui se penchait follement, appuyait sur le fond lumineux du ciel et de l'eau ses branches noires et ses fleurs roses. En voyant le soleil descendre rapidement, ils prirent le galop, craignant d'être surpris par la nuit. Ils coupèrent par un chemin plus court, dévorèrent l'espace et virent enfin, au bout de la plaine, Dinan se découper sur la colline, dans le ciel encore clair. On laissa souffler les chevaux un moment. Une voix qui demandait la charité les fit tressaillir. C'était un vieillard assis sous un petit auvent planté sur deux poutres.
« Ah, donnez-lui quelque chose, » dit Isoline. « Ce malheureux m'a fait sentir bien souvent ma misère. Combien de fois ai-je dérobé des morceaux de pain pour les lui donner en passant et n'être pas humilié par un pauvre ?»
Gilbert jeta une aumône dans le chapeau tendu et ils repartirent. Une cloche tintait lorsqu'ils arrivèrent en vue du château.
« Mon dîner, » dit-elle en riant, « je serai privée de potage. »
Ils se séparèrent devant l'étang. Et comme il l'interrogeait d'un regard anxieux, elle lui cria en s'éloignant,
« À demain, n'est-ce pas, chez Marie ?»